Vous écoutez
RMC. RMC, votre maison.
Le conseil béton.
Béton.
De Christian Pesset.
Alors, on va parler d'ampoules. Si vous les faites tomber comme ça, les ampoules, Christian, ça va pas bien marcher. Donc, votre conseil de ce samedi matin, c'est justement comment bien choisir ses ampoules d'éclairage.
Eh oui, parce que vous savez que demain, c'est le changement d'heure.
Eh oui.
Eh oui. Et ça va avoir pour conséquence un allongement de la durée d'éclairage de soir. Ça m'a donné l'idée donc de faire le point sur le difficile choix des ampoules. Je vais souvent en grande surface de bricolage pour faire un petit peu le point de tout ce qui est sur le marché. Et il nous est tous arrivé de voir les linéaires d'ampoules d'aujourd'hui avec des gens arrêtés devant, dubitatifs, ne sachant pas quoi prendre et véritablement s'arrêtant sur le prix de certaines de ces ampoules qui est devenu un peu faramineux. Il y a des prix extravagants. Alors un petit rappel, les ampoules incandescence traditionnelles, eh bien elles ont été retirées progressivement de la vente de 2009 à 2012.
À tort ou à raison à votre avis?
Plutôt à raison pour les économies d'énergie, mais on est passé de quelque chose qui était extrêmement simple à un casse-tête de choix du fait des technologies.
On a l'impression que les LED c'est quand même plus de technicité dans les ampoules, hein, donc bien en sûr. Fait ça coûte plus cher, ça tombe en panne.
Oui, alors ça devrait pas puisque elles sont garanties normalement pour 15 000 heures en moyenne, et donc on nous avait fait une promesse, mais c'est pas tellement les LED qui posent problème, ce sont beaucoup plus les fluo compacts qui sont encore sur le marché qui tendent à disparaître. Vous savez, le fluo compact, c'est quoi? Eh bien, c'est une ampoule à l'intérieur duquel on a mis un petit tube néon, généralement en tortillon. D'ailleurs, pour certaines, le tortillon est apparent. Pour d'autres, il y a un bulbe dessus. Pour d'autres, c'est un peu comme un crayon. Et en fin de compte, c'est celle-ci, moi, à mon avis, qui pose problème. Elles ont posé problème à l'allumage pendant longtemps. Mmh. Maintenant, ça a disparu, mais il y a un temps d'allumage. Vous en avez tous encore et toutes, j'imagine, chez vous. Moi, j'ai un plafonnier avec 6 ampoules comme ça que j'avais équipé il y a 4-5 ans, il met du temps à s'allumer quand c'est froid, et ça c'est pas tout à fait normal. Alors après il y a les distinguos classiques, ceux auxquels vous devriez être habitué. Vous savez, c'est les diamètres de culot d'ampoule, c'est savoir si c'est un petit ou gros culot vissant. Il y a encore des baïonnettes, il y en a de moins en moins, c'est en train de complètement disparaître. Il y a aussi des
donc
culots...
maintenant on a des culots à vis,
ouais,
c'est ça,
la plupart sont des gros ou des petits culots à vis. Ensuite, il y en a avec des broches aussi. Ce sont des petites ampoules qu'on va qualifier de petites ampoules pour les spots notamment. Et puis il y a les formes, il y a les flammes, il y a les torsadées, etc. Alors les autres critères de choix, et c'est surtout cela sur lesquels je vais m'arrêter, c'est la question de la lumière et de l'éclairement. Alors autrefois c'était simple, vous savez, on parlait en watts et on parlait d'ampoules claires ou opaques. Hein, c'était à peu près les seuls distinguos. Alors aujourd'hui, on a essayé, depuis que sont apparues ces nouvelles ampoules, on a essayé de parler en lumen pour les watts, et puis en kelvin pour la couleur.
Alors, c'est pratique tout ça.
Tout ça c'est ouais. Pratique. Alors il y a du blanc froid, du blanc neutre, du blanc chaud, et puis les ampoules claires avaient finalement disparu. Elles réapparaissent aujourd'hui avec les LED. Alors on a essayé, les fabricants aussi de nous imposer ça. Eh ben ils sont pas arrivés. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien effectivement, on convertit en watts. Donc maintenant sur les boîtes, vous avez la conversion en watts. Ils ont mis du temps à s'y mettre, mais c'est quand même plus simple. Alors attention, il y a une chose, c'est que les nouvelles ampoules à LED qui sont véritablement les meilleures parce que ça ne chauffe pas, ça s'allume instantanément. Donc il y a absolument pas aucun souci. Attention, elles ne sont pas toutes compatibles avec les variateurs. Alors, on nous a mis de plus en plus de variateurs dans les maisons, et là on se trouve parfois le bec dans l'eau avec une ampoule qui ne marche pas parce que justement elle ne peut pas être compatible avec les variateurs. Alors restent les prix, alors qui m'apparaissent pour beaucoup de ces ampoules anormalement élevés. Hein, on trouve des ampoules à 7-10 €. Je trouve ça absolument scandaleux. Alors les fabricants ont quand même rétro-pédalé, hein, et on voit apparaître aujourd'hui notamment par lot. Alors il vaut mieux en acheter par exemple 3. Moi j'ai vu là 3 ampoules à bulbe à vis équivalent 100 watts d'une grande marque à moins de 10 € le lot de 3.
C'est pas mal.
Donc ça commence à redevenir correct. Ceci étant, si on devait comparer avec ce qu'on payait autrefois les ampoules,
c'est encore beaucoup plus cher.
Encore très cher, puisque 3,30 euros, ça fait quand même multiplié par 6, en fait, le calcul. C'est par rapport à la conversion en francs pour les vieux. Mais pour les plus jeunes aussi, comme vous, mon cher, en culotte courte.
Ça fait 20 francs.
Ouais.
Ça sera plus de 20 francs.
Ouais, ouais,
ouais. À l'époque, avec 20 francs, on avait
10 ampoules.
On avait 10 ampoules. Voilà, c'est ça.
Donc,
Alors, c'est sûr qu'elle consommait moins, mais elle coûtait ridiculement rien.
Elle consommait plus.
Mais elle durait beaucoup moins cher.
Et elle durait beaucoup moins longtemps.
Oui.
Faut quand même l'admettre. Voilà, vont apparaître bientôt sont apparues les ampoules connectées.
Ah bah oui.
Donc ça, j'en ferai un sujet à part entière, et puis j'appellerai à la rescousse Raphaël pour en parler.
Vous savez que moi j'ai ça à la maison,
les
ampoules connectées des Philips Hue, puisque en fait Philips c'est très 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 malicieusement c'est repositionné en fait sur le marché de la lumière et c'est génial parce qu'avec votre smartphone vous pouvez donc changer les couleurs mettre en route les ampoules
son.
Il y a même avec du son la reconnaissance vocale si on a un assistant vocal.
Vous changez souvent les couleurs de vos ampoules?
Non, mais j'allume mes ampoules en disant OK Google, allume la lumière, et c'est à la maison,
oui,
ça marche.
Mais on n'a pas besoin d'avoir forcément une ampoule connectée pour ça, parce que ça peut passer directement par le réseau de commande.
Certes, mais c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre.
Je suis d'accord, on en parlera. C'est un sujet intéressant.
Sujet qu'on évoquera avec Raphaël Grabli. Christian revient dans un instant et on va s'attaquer au soleil. Alors on va le laisser tranquille, le pauvre, parce que je pense que c'est lui qui gagnerait si on commence un peu à le titiller. Mais on va essayer de comprendre si on peut se chauffer uniquement.
Voilà.
Avec le soleil.
Voilà, et si on ne se chauffe pas uniquement, quel est l'intérêt, notamment économique et écologique, évidemment.
Est-ce que c'est du thermique ou du photovoltaïque,
tiens? On va en parler.
On posera la question. Vous avez des questions sur ce sujet, 3216, l'appli RMC Direct Studio, et vous savez quoi, comme on parle de chauffage, Christian, avec Mano Mano, notre partenaire, on vous offre un poêle à bois.
Oui.
J'ai le descriptif, tiens, en bas de la feuille. Je vais vous le donner et vous me direz ce que vous en pensez. Ça a l'air pas mal. C'est un poêle à bois en acier. Donc
combien de kilowatts?
Puissance calorifique 7,5 kilowatts.
Oui, c'est pas mal.
Voilà,
c'est
volume de chauffe 190 mètres cubes. Qu'est-ce qu'on a comme autre information? Résistance 800 degrés, grille en fonte, auto-ramasseur de cendres.
Oui.
Oui, d'accord. On a même les émissions de CO, tout ça, 13% d'oxygène, etc. Enfin bon, c'est un joli cadeau qu'on vous offre. Un poêle à bois, ça coûte de l'argent.
Ça coûte de l'argent, mais on va voir justement que ça peut être tout à fait complémentaire avec une installation solaire.
Alors,
c'est un bon complément.
Ce poêle à bois, si vous voulez tenter votre chance et essayer de le remporter, c'est maintenant sur RMC. On ne joue exclusivement que par SMS. Vous nous envoyez le mot maison par SMS au 732-16. Maison sur votre téléphone portable. Donc par SMS au 732-16 et vous participerez au tirage au sort pour ce poêle à bois que nous vous offrons sur RMC. Il est 7h20, on revient dans un instant juste après la météo.
RMC,
7h-8h,
votre maison, François Sorel,
Christian Pessé. Il est mort.
Mais non, il est toujours là.
Il est mort le soleil quand tu m'as quitté.
Vous dansez, Christian?
Oui,
on fait un petit slow tous les deux.
Oui. Est-ce que vous savez que cette chanson...
Il veut pas. Vous avez vu, il veut pas que je fasse un petit slow.
Est-ce que vous savez que cette chanson, c'est l'original?
Ah, Christian.
Et donc, Ray Charles a repris la chanson, mais
Christian,
c'est pas l'inverse.
Christian, salut les copains, mesdames, messieurs. Nous retournons dans les années 60. Retrouvez l'expertise musicale de Christian PC.
Je peux vous faire une émission sur le sujet.
En fait, Christian peut nous faire des émissions sur tout, à peu près. Sauf sur les PC, où là, vous êtes pas bon.
Mais ça,
on
n'y
peut rien. Dommage quand même, parce qu'avec votre nom.
On n'est jamais bien servi par soi-même.
Que par soi-même. Christian, alors on ne va pas parler de chansons, mais bien peut-être d'un système de chauffage, j'allais dire alternatif, pas tout à fait, puisqu'il existe déjà, mais il mérite à être connu et peut-être à être propagé, c'est le chauffage par le soleil.
Voilà, on va voir comment on peut se chauffer par le soleil, si on peut, quelle est la forme, le type de technologie, si c'est thermique, si c'est voltaïque, on va voir aussi si ça peut être associé à d'autres modes de chauffage. Alors nous sommes ce matin avec Gaël Parrins, bonjour.
Bonjour Christian.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de Qualito NR, donc on verra ce que c'est, et puis suis élu de la Fédération française du bâtiment, avec un sigle UMGCP, ça c'est vraiment commercial, hein, c'est bien. Mais on s'en fout, remarquez, c'est pas pour vendre quelque chose. Hein. Et installateur de chauffage solaire, vous avez une entreprise qui s'appelle Aquason, et vous êtes donc spécialiste de la question. Alors, on va poser tout de suite le débat, parce que c'est l'une des questions qui se pose. C'est du solaire quoi ? C'est du solaire pour se chauffer vraiment, c'est le thermique. On a une question qui chauffe, si j'ose dire, sur le sujet. C'est du thermique, c'est du photovoltaïque. Comment ça marche tout ça ?
En fait, c'est très simple. Ça dépend des usages, Christian. Il faut avoir une image. Tout le monde sait ce que c'est qu'un cumulus électrique.
Oui,
un chauffe-eau électrique, oui. Tout le monde connaît ça.
Un ballon d'eau chaude
sanitaire. Et bien c'est très simple. Si je le raccorde avec des panneaux solaires type photovoltaïque qui produisent de l'électricité, il va me falloir 17 mètres carrés. Ça a un rendement à peu près de 18 à 20%.
C'est ça.
Si je le raccorde avec des panneaux thermiques qui ont un rendement de 80%, devinez combien de mètres carrés ? Et bien 3.
Oui, d'accord. Donc, la messe est dite. Hein,
Voilà. Et donc, quand on fait du chauffage, on va pouvoir mettre du thermique et pas du photovoltaïque. Mais le thermique et le photovoltaïque, ça dépend des usages.
Oui.
Faire de l'eau chaude pour le micro-ondes, c'est quand même assez difficile. Parce qu'on a besoin d'Internet, on a besoin des micro-ondes, on a besoin de
puissance électrique.
On a besoin des deux.
Des deux.
Voilà.
Donc, on peut combiner les deux ?
Alors, on va combiner les deux. C'est pas les mêmes raccordements, mais c'est très utile dans les installations pour baisser les factures électriques ou les factures de propane, de fuel ou de gaz. D'accord. Parce que les gens, on a été mal habitués en France. On avait EDF, GDF. On avait le gaz, on avait la même voiture. On appuyait sur un bouton, le téléphone, on était dépanné, on avait tout. Oui. Et avec l'électricité, on a tout fait. Donc, ça a porté la confusion. Alors, en théorie, on pourrait brancher les radiateurs électriques. Tout, il n'y a pas de problème. Techniquement, on peut le faire, mais je pense qu'il va falloir faire des hangars sur les champs du voisin et le terrain de 3000 mètres carrés. Il sera plein de panneaux photovoltaïques.
Et bien exposé, en plus.
Et bien exposé. Alors, l'exposition, on en parlera après, mais on peut aller loin. On peut aller de l'est à l'ouest. Et ça dépendra des usages et l'inclinaison. Mais
juste une question, parce que c'est vrai que c'est un peu le fantasme de tout le monde. Est-ce qu'on peut imaginer une maison qui est complètement autonome en énergie ? Aujourd'hui, ça représenterait quelle surface de panneaux photovoltaïques pour avoir une autonomie, hein.
Effectivement, le thermique et voilà. Le photovoltaïque. Alors, du coup.
Vous là, on dit bye bye EDF, gros bisous, au revoir.
Alors, vous regarderez mon site internet aquason.com et vous verrez que j'ai des maisons qui sont à 80% autonomes, 90%. Là, j'ai un client, je pense, ça y est, on va basculer à l'autonomie. Il ne manquait plus qu'une batterie qu'on va mettre. Elle fait 300 mètres carrés. On chauffe à 21 degrés.
La batterie ?
Non, la maison fait 300 mètres carrés.
Que la batterie faisait 300 mètres carrés.
On a du solaire thermique. Ouais. On a des panneaux photovoltaïques. Et avec ça, il fait le chauffage. Il a un appoint sur une pompe à chaleur. Et si vous voulez être à 100% énergétique, mais vert, totalement vert, vous prenez un contrat type Energico, électricité verte. Vous en produisez. Ouais, vous êtes vert.
L'électricité verte, vous savez bien qu'elle n'est pas vraiment verte. Hein,
excusez-moi, vous n'avez pas tout à fait répondu. Ça représente quelle surface de panneaux photovoltaïques pour votre client qui justement est à 80%.
Alors, c'est simple. La surface, on va la compter entre 5% de la surface de la maison à 10% selon le type de la maison et
donc,
de la
maison. Donc, on va dire, lui, pour lui, 30 mètres carrés de panneaux.
Non, là, on était à 20 mètres carrés de panneaux pour lui.
Mais alors, 20 mètres carrés de panneaux. Thermique.
Et on était à 18 mètres carrés de panneaux photovoltaïques.
D'accord. Donc aussi. Ça fait 20 plus 18, on est quoi, 40 mètres carrés quoi.
Oui, mais quand vous avez des maisons de 300 mètres carrés, vous avez de la surface.
Non. Ouais. C'est pas un reproche. Hein. J'essaie simplement de comprendre et de me dire, ben voilà,
mais ça représente donc
un peu plus de 10% de la surface de la maison pour le thermique et l'électrique.
À peu près. Mais maintenant, c'est faux dans ce que je viens de vous dire, pour la bonne raison qu'on peut les mettre aussi verticalement, les panneaux sur les murs.
Oui.
Maintenant.
C'est quand même pas encore très beau. Oh, hein.
Eh ben c'est peut-être pas beau, mais il va falloir choisir. On a choisi boire et conduire.
C'est-à-dire quoi,
et
à la place
se chauffer,
Christian,
oui, et conduire. Façade.
Ça veut dire quoi, la façade des, les oui. murs, les murs oui. de la façade oui. de la maison, oui, c'est les panneaux.
Oui.
On peut y arriver.
Puis vous pouvez aussi en mettre dans le jardin.
Au sol, on peut le mettre au sol.
Incliné à 45.
Donc
degrés.
le toit plus la façade.
Plus la façade. Et quand on fait du chauffage, plus on a une inclinaison forte, 70, 90, c'est mieux.
Ouais. C'est intéressant parce qu'en fait, il doit avoir une réflexion de la part des architectes, non ?
Oui, bien sûr.
Ces nouvelles problématiques.
Ça implique une réflexion esthétique sur
l'inclinaison, etc. On a Hervé, au 32-16, qui a une question pour vous. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Bien vu. Allez-y, Hervé, parlez bien dans votre téléphone. Hervé, on a l'impression que vous êtes un peu loin.
Pourtant, je suis bien dans le téléphone.
C'est bon, là, vous y êtes.
Vous êtes dans le téléphone, c'est parfait.
C'est parfait. Qu'est-ce qui vous arrive, Hervé? On vous écoute.
Alors, moi, je vous explique mon cas. J'ai une maison individuelle qui a une vingtaine d'années, là. Ouais. Et on est en pleine réflexion sur l'évolution de notre mode de chauffage, puisque nous sommes aujourd'hui avec une chaudière à fioul. Donc, dans notre imagination, c'était de passer soit sur une pompe à chaleur, soit sur une chaudière électrique, et la coupler avec des panneaux solaires photovoltaïques pour produire l'électricité. Sachant que notre maison, en rez-de-chaussée, nous avons un chauffage au sol, et sur les étages où il y a les chambres, notamment les salles de bain, ce sont des radiateurs électriques.
Très bonne question. Voilà. On va déjà oublier la chaudière électrique, hein, parce que c'est la dernière des solutions qu'on peut utiliser quand on peut vraiment pas faire autrement, quoi. On va prendre une chaudière électrique, mais c'est vraiment pas la bonne solution. Mais
donc, Christian, si vous travaillez à EDF, à 10%
de la facture, voilà. Oui, Gaël a raison. Si on touche l'électricité, très peu cher. Mais ça veut dire quoi?
Si on la couple avec des panneaux solaires.
Alors voilà. Bonne question. Donc je la renvoie à Gaël.
Oui. Bonjour, je vous réponds. Alors c'est très simple, c'est la confusion encore avec le rendement et le photovoltaïque et le solaire thermique. Dans votre cas, sur votre maison qui fait quoi, 150 mètres carrés?
Un peu plus, 170.
Bon, 170, vous allez mettre 12 à 15 mètres carrés de capteurs solaires thermiques. Ça s'appelle un chauffage solaire combiné. Et là-dessus, après, vous pourrez mettre un appoint. Si vous êtes dans la Lozère, vous avez du bois, je pense.
Une maison avec des façades bois.
Oui, donc je veux dire, vous avez du bois en énergie, vous avez du granulé de bois.
On peut avoir du granulé. Voilà. Aujourd'hui, on a une cheminée, donc on a du bois classique.
Voilà. Alors on peut le mettre avec du bois classique avec un poêle bouilleur ou du granulé de bois, un poêle à granulé. Et là, vous allez avoir une maison performante. Vous allez diviser par deux votre consommation de fioul. Vous faites, je suppose, 2 200 € de fioul à peu près à l'heure actuelle.
En prix, je ne m'en rappelle plus, mais on est autour de 1 400 à 1 500 litres par an.
Ouais. Bon, un peu moins. Donc, elle est bien isolée. Et donc, vous allez redescendre si je fais la conversion, à 200 € de granulé.
Ouais.
Moins d'une tonne en mettant un système solaire combiné.
Mais il va y avoir un investissement important.
On est d'accord que les panneaux photovoltaïques ne serviraient à rien pour alimenter une chaudière électrique.
À rien.
Ça serait peanuts. Ça couvrirait quoi de la...
Ben, toujours le même ratio, le 20% de rendement. Ouais. Voilà, pour comparer par rapport à du thermique. Donc, il faut prendre du chauffage solaire thermique, ça s'appelle un ballon d'eau chaude combiné, chauffage combiné.
En revanche, est-ce qu'on ne peut pas mettre du photovoltaïque pour alimenter une pompe à chaleur?
Alors, non plus. Moi, je c'est des questions, mais là, les coûts de la pompe à chaleur plus les coûts du photovoltaïque font que c'est pas très bon. Après, quand il fait froid, on a froid, c'est pas le froid qui me dérange, c'est les temps couverts, on n'a pas de production d'énergie photovoltaïque, et la pompe à chaleur va démarrer. Donc, ça va pas très bien, quoi.
Et l'aéro...
Alors, on termine avec Hervé. Hervé, oui, vous avez encore une question?
Oui, une question. Est-ce que vos panneaux à production d'eau chaude thermique, des jours où le ciel est couvert, notamment, est-ce que ça chauffe?
Ben, je vous invite à aller sur le site de l'émission, et il y a des liens sur les sites donc d'Aquason, où je peux citer un fabricant qui fait
bien. Sûr.
Donc vous avez la société Solisart, vous tapez Solisart et vous verrez les rendements et des vidéos. Effectivement, dès qu'on a un petit peu de rayonnement, on va chauffer. Et l'avantage que vous avez dit, que vous rendez pas compte, vous avez un plancher chauffant. On travaille à basse température. Donc c'est magnifique. Moi j'ai tous les clients qui sont étonnés quand ils voient 12-13 degrés dehors, temps couvert. Ils se rendent compte, ça chauffe. Mais oui, ça chauffe très bien.
C'est le rayonnement. Donc il n'y a pas besoin qu'il fasse très beau, que le ciel soit.
Non. Donc c'est un autre concept que le photovoltaïque, en fait. Ça n'a rien à voir.
On va reprendre, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Le chauffage solaire, ça existe depuis, moi j'en ai posé depuis 96 à peu près. Donc, et le photovoltaïque est arrivé à peu près en 99 sur les premières installations en site isolé. Et après, ça a été 2007 le départ. Voilà, donc c'est le plus ancien, ça a été le chauffage solaire thermique. Ouais. Et c'est là où on fait le plus grandes économies.
Alors, juste une question, à Paris par exemple, ça vaut le coup on est dans la région parisienne, on a un peu de terrain, etc. Ça marche aussi?
Et ça marche en Norvège.
Ça marche en Norvège?
Ouais.
D'accord.
Donc, c'est bon.
À Paris.
Même,
hein. Vous savez, Paris, c'est pire que la Norvège, hein, parfois. Hein.
Ouais, non, n'exagérez pas, je viens assez souvent.
Ah, vous venez souvent?
Non, vous pouvez pas le faire. C'est vrai qu'il fait plus beau en ce moment à Pau, on est d'accord.
Hein. Pour résumer, on a dans le photovoltaïque, avec des cellules, on transforme l'énergie solaire en énergie électrique qu'on utiliserait ensuite pour alimenter un chauffage. C'est un peu, c'est finalement très complexe. Alors que, avec le thermique, on chauffe directement un liquide qui peut être injecté directement dans le système.
Qui se chauffe plus facilement, qui se chauffe plus facilement, même s'il n'y a pas un taux d'enfin, on va dire un ensoleillement très très puissant.
Oui, ce que je veux dire, c'est qu'avec le thermique, on fait quand même des économies sur sa facture de chauffage, donc de fuel, de gaz, de propane, de 50 à 90%. Moi, j'ai des gens qui sont autonomes à 90% en solaire thermique. C'est-à-dire que vous imaginez, vous faites 90% de votre dépense avec du solaire qui vous coûte rien, qui arrive sur votre toit. Il sera là tout le temps et avec un taux de performance toujours maintenu avec un entretien et une durée de vie. Moi, mes plus vieux panneaux que je peux parler, que j'ai posés, qui tournent toujours, c'est plus de 30 ans.
Oui, alors c'est pareil. Est-ce qu'il y a une perte? Parce qu'avec du photovoltaïque, on dit qu'on perd à peu près 1% par an de rendement. Est-ce qu'avec ces panneaux-là, on va pas avoir une perte aussi? Parce que j'imagine que le verre, il doit devenir un peu plus opaque, non?
Oui, au fil du temps. Votre fenêtre que vous avez dans votre maison, elle a quel âge? Il y a une perte ou pas?
Oui. Oui,
c'est pareil. C'est pareil. Ouais. C'est la question qu'on me pose tout le temps.
Il faut le laver de temps en temps.
Voilà.
Comme on lave les carreaux.
Voilà. Il faut le laver. Entretien.
Voilà, c'est peut-être pas très simple quand c'est à 12 mètres de hauteur.
Non, il n'y a pas de problème, parce qu'avec la pluie, ça se lave.
Ouais.
Il n'y a pas de problème.
Il y a des vitres nettoyantes maintenant?
Non, là-dessus, on n'a pas, mais on monte tous les 10 ans, un coup de pulvérisateur, un produit, et, parce qu'il y a un peu de mousse, mais comme votre toiture, c'est tout. Et on frotte. Il y a très peu d'algues, puisqu'on est quand même plein sud, on a toujours le soleil, donc on n'a pas un développement microbien.
Alors, juste une question, parce qu'on ne parle pas de prix, mais il faut évoquer quand même le tarif. C'est des investissements importants.
Et une pompe à chaleur, est-ce que c'est un tarif important?
Oui, c'est un
problème. Oui,
mais faut pas nous battre en touche. Ça coûte combien?
Ah oui, bah, parce que vous répondez pas. Ouais. Mais non, mais je remets les choses à leur place.
Ah.
Et c'est
on sent le rugbyman là.
C'est normal.
Il botte en touche.
Je botte en touche, mais je vais aller marquer l'essai.
Oui, alors donc.
Alors donc l'essai pour une maison, grosso modo, système très performant, ça va coûter entre 12 000 et 20 000 euros.
D'accord.
Voilà à peu près le prix d'investissement. On a 30% de crédit d'impôt. Plafonné à 16 000 euros.
Enfin, jusqu'au 31 décembre.
Oui, mais après, les primes, bon, ça va. Le solaire, ça devrait s'en tirer pas trop mal. Donc, grosso modo, on a 30%.
Alors qu'il n'y en a pas pour le photovoltaïque.
Mais il n'y en a pas besoin. Le prix de base du photovoltaïque et le coût de pose et tout, il n'y en a pas besoin.
Ouais.
Attention, si vos entreprises qui font l'installation soient sérieuses, ils ne sont pas des maroulins.
Ouais. Où est-ce qu'on trouve pour trouver des bonnes entreprises?
Alors,
RGE, évidemment.
Et bien alors, les bonnes entreprises, vous allez sur le site qualitoenr.fr, vous tapez Google Qualitoenr, et puis voilà, vous aurez des entreprises fiables et sérieuses.
Ouais. Qualitoenr, c'est l'organisme professionnel, on va dire.
Alors, ce n'est pas l'organisme, été créé par l'ADEME en 2006 pour le solaire, qui n'y arrivait plus à gérer tous les calisols et les calis-eau chaude solaire et eau chaude chauffage, qui a demandé donc aux instances, au PQ, de créer Qualitoenr. On a créé et ça fait service de formation, service client.
D'accord.
Et référencement, RGE.
Ok Gaël, juste moi une petite question. Donc on a compris 16 à 20 000 euros d'investissement pour avoir donc du chauffage avec donc thermique, avec ce système. Ça coûte combien une pompe à chaleur?
Alors une pompe à chaleur, ça coûte normalement, ça coûte à partir de 10 000 euros, mais en fait, c'est plutôt 15 000.
Donc
18 000,
c'est à peu près le même prix.
Oui, c'est à peu près le même prix.
D'accord. C'est pour ça que je vous ai dit ça.
Ok.
Non, c'était pas pour rien.
Très bien. Et donc vous disiez 30%
ça fait à peu près 5 200 euros. Pour être concret.
Qu'on enlève sur le prix que vous nous donniez tout à l'heure.
Vous les enlevez, et puis vous pouvez avoir 600 ou 700 euros de prime CE, plus à peu près 50 euros. Plus l'économie qu'on fait diviser par deux de son chauffage, ce monsieur est à 1400, il va tomber à 700 euros. Mm-hmm. Donc pendant 10 ans, il va économiser 7000 euros.
Donc combien de temps il faut pour amortir tout
vous
ça?
Vous avez la réponse.
10 ans.
Entre 5 ans dans les gros consommateurs et 12 ans.
Entre 5 et 12 ans.
D'accord. Je dis 10, moi.
Très 10 ans. Ok. Après, quand on est dans le sud de la France, l'intérêt, c'est qu'il faut aussi avoir une climatisation. Donc, il faut rajouter un autre système pour pouvoir se rafraîchir l'été. On est d'accord?
Non, on fait de l'isolation, des phasages, il n'y a pas de problème.
Vous n'avez pas la clim chez vous?
Non.
Alors, ah, bravo. Franchement.
Mais quand vous concevez bien une maison, et que vous la rénovez bien, il n'y a pas de problème.
Vous n'avez pas besoin de climatisation?
Non, et pourtant, on est monté à 45 cet été.
Eh ben, dites-moi. Mais vous supportez la chaleur, c'est pour ça.
Ça, vous êtes dedans.
On revient dans un instant, c'est RMC 7h43. On évoque justement le chauffage thermique ou effectivement l'option photovoltaïque. Ce matin, 32-16 pour toutes vos questions. On revient dans un instant, à tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC
jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Le retour de ce week-end des experts, c'est la maison. On évoque le chauffage avec le soleil ce matin. Christian, oui, avec Gaël Parrin.
Gaël Parrin, vice-président de Qualito NR et patron d'Aquasone. Gaël Parrin, alors vous êtes un pro de l'installation. Bon, dans tous ces domaines de nouvelles technologies, on a quand même pas mal de problèmes d'installation, de compétences. On ne sait plus très bien à qui s'adresser. Alors, comment on peut être sûr qu'on va avoir quelqu'un qui s'y connaît, parce que ce sont de nouveaux métiers quand même, globalement.
Ah ben, c'est nos métiers, absolument. J'ai dit climatique, on est spécialisé dans les ENR. Donc on va sur
énergie renouvelable. Énergie renouvelable.
Excusez-moi. Donc on va sur le site de Qualito NR. Ouais. On cherche donc un installateur Qualisol.
D'accord. Qualisol, c'est la certification.
La certification RGE pour poser du solaire.
D'accord.
On a Qualisol pour le chauffe-eau solaire et Qualicombi aussi. Et là, moi, ce que je peux dire en tant que président d'instance, je vois les dossiers de gens qui ont des mauvaises installations, qui ne fonctionnent pas, des problèmes, des retours. C'est la seule qualification où je n'ai jamais de dossier. Pourquoi? Oui. Mais parce que c'est depuis 2006 qu'on a formé les installateurs.
D'accord.
Donc, on est à moins de 1% de défauts. Mieux que l'automobile.
Mieux que l'automobile.
Parfait. Bon, merci beaucoup.
Merci. Donc, merci Gaël Parrin. Qualit ENR, hein. C'est comme qualité, puis ENR attaché. Il y a beaucoup de choses sur le site.
On enchaîne avec Marie maintenant qui nous attend au 32-16. Bonjour Marie.
Bonjour Marie.
Bonjour monsieur.
Bienvenue.
Notre question.
Oui. On vous écoute.
Écoutez, nous avons une problématique assez proche, c'est-à-dire que nous voulons construire une maison, vous savez, selon dit passive. Mais un peu du titre de la maison canopée des Manécoches, je ne sais pas si vous
avez
vu, elle est souvent, elle a été très médiatisée,
oui.
Et qui serait une maison donc, qui serait tout à fait vertueuse en termes justement de matériaux, de choix de matériaux, c'est-à-dire du bois et des grandes façades vitrées, doubles et triples vitrages selon l'orientation.
Oui.
Après, alors par contre, avec des toits plats végétalisés si possible.
Oui.
Et donc à l'intérieur de ça, on voudrait une structure qui soit justement assez autonome pour produire l'énergie nécessaire à tous nos besoins, y compris domestiques.
On vient d'en parler.
Et voilà, et qui soit bon justement peu consommatrice de carbone. Alors on a regardé les critères de la maison passive. Mais cette réglementation thermique de 2020 dont on nous parle depuis des années,
oui.
On n'en a pas le contenu et on a peur d'être, voyez, de déposer un projet en 2020 qui soit déjà dépassé par une réglementation que l'on ne connaît pas.
Alors, eh ben oui, on ne connaît pas. Donc c'est parfaitement clair que la 2020, elle est encore en discussion. Donc elle est encore en discussion. Et moi, je peux pas. Je suis pas devin. Ce qu'on sait, si vous voulez, c'est que on va effectivement vers cette maison passive que l'on évoque, et puis la maison même qui va donc produire plus d'énergie à terme, voilà, qu'elle n'en consommera. Alors, mais ça existe déjà. Vous avez déjà des constructeurs qui produisent ce type de maison. Il faut.
Elles sont rares.
Ah ben oui, mais forcément qu'elles sont rares.
Beaucoup de gens spécialisés.
Mais forcément qu'elles sont rares, puisque ça n'est pas dans la norme et que les gens construisent dans la norme et que évidemment elles coûtent beaucoup plus cher quand même aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas produites en grand nombre. Donc il va falloir effectivement, vous avez deux solutions: ou vous construisez aujourd'hui avec la norme actuelle, ou bien vous attendez 2021, 2022, parce que je pense que ça ne sera pas avant 2022. c'est-à-dire vous attendez 3 ans pour déposer votre projet, parce que aujourd'hui vous ne pourrez pas évidemment déposer un projet 2020 puisqu'on n'a pas encore la norme. Mais tout ce que vous avez décrit, et puis on peut y ajouter aussi donc une très bonne isolation, un positionnement intelligent de la maison. On va vers donc ce qu'on appelle le BIPOS.
Ça existe déjà.
Ça existe déjà. Il faut simplement que vous cherchiez un peu les constructeurs qui font cela. Mais c'est rare, c'est cher. Pas forcément très très cher, mais un peu plus. Allez, moi je vais vous dire, à mon avis, on est dans le 15 à 20% de plus qu'une construction basique d'aujourd'hui. Mais donc vous pouvez déjà avoir ces critères. Et puis, vous êtes quand même, puisque la norme n'est pas encore là, vous êtes quand même un petit peu dans l'expérimentation. Il y a peut-être des choses qui seront.
Est-ce qu'on a assez de recul?
On n'a forcément pas de recul. Enfin, on a du recul, si. Parce que des maisons comme ça, il en existe, et d'ailleurs depuis déjà longtemps. Donc, mais on peut pas avoir de recul par rapport à une norme qui n'existe pas encore. Hein, donc, mais oui, il faut aller vers cela. N'hésitez pas avec justement un mixte. Moi, je suis pour le mixte d'énergie. On a parlé beaucoup ce matin du thermique, du photovoltaïque, chauffage bois, chauffage granulé. Tout ça, ça doit nous permettre de faire une maison tout à fait d'anticipation presque.
C'est RMC. Il est 8h10. On enchaîne, mon cher Christian, et pour terminer, avec votre coup de cœur.
Oui, alors mon coup de cœur, c'est pour l'étiquette énergétique chaudière, mais ancienne. Alors, vous êtes tous habitués aux étiquettes énergétiques et environnementales dans différents domaines. Vous savez que le classement AAG, c'est des flèches horizontales, du rouge au vert foncé, pour aller du plus mauvais au meilleur classement. Alors après, la qualité thermique du logement, la consommation d'énergie des appareils électroménagers, et même des chaudières et appareils et installation de chauffage neuf, ça existe depuis 2015, et bien voilà l'étiquette chaudière ancienne. Alors ça est fait à l'initiative de deux organismes du secteur, Coeneuve et Énergie Avenir, avec le soutien de la Fédération Française du Bâtiment, de la CAPEB, de la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, et puis du SINASAV, d'UniClimat. Vous voyez, il y a tout un ensemble de structures qui se mobilisent pour ça. Alors c'est donc l'étiquette, mon étiquette chaudière. Alors quel est l'objectif? Eh bien, c'est d'inciter au remplacement des chaudières les plus énergivores, les plus polluantes et les plus bruyantes. Alors, il s'agit de faire prendre conscience aux particuliers de l'éventuelle vétusté de leur chaudière et les inciter à la remplacer par différents systèmes en bénéficiant des aides actuelles importantes dans ce domaine. Alors, comment ça va marcher? Eh bien, vous allez pouvoir demander à votre chauffagiste, à celui qui entretient votre chaudière,
qui nous fasse un petit audit
et qui vous édite donc cette étiquette.
D'accord.
Il pourra coller sur votre chaudière cette étiquette, et là vous allez vous rendre compte évidemment de savoir si il faut la changer, parce que vous êtes justement dans le rouge, dans le bas. Je trouve que c'est une...
Donc il y aura plusieurs couleurs d'étiquettes, c'est ça, comment ça va marcher?
Exactement, c'est comme les étiquettes énergétiques que vous avez.
D'accord.
Aujourd'hui sur
les ABC,
frigo, etc. Et alors pour s'informer, www.monétiquettechaudière.fr, tout attaché, monétiquettechaudière.fr. Je salue cette initiative. Maintenant, il va falloir que les chauffagistes mouillent la chemise. Hein. Il va falloir qu'ils jouent le jeu, parce que c'est maintenant la balle, elle est dans leur camp. Hein.
Après, cela dit, c'est peut-être dans leur intérêt, parce que s'ils mettent une mauvaise étiquette, peut-être que le particulier lui demandera de changer sa chaudière.
Voilà. Mais l'analyse sera aussi indépendante. Hein. Il va pas falloir que.
Et voilà.
C'est
là où on va rigoler.
C'est là où on va rigoler. Absolument.
Christian, on se retrouve la semaine prochaine,
bien sûr.
7h-8h, la maison. Et dans un instant, il vient d'arriver.
Il est là.
Studieux, comme d'habitude, souriant, professionnel.
Ah, il a une petite mine quand même, je trouve, là.
Ah bon?
Il doit nous sortir
qu'est-ce
du bronchite ou quelque chose.
Oh non, ne dites pas ça, c'est un médecin.